Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Du 15 novembre au 15 décembre, la Ligue de l'enseignement organise des temps forts dans le cadre du mois de la laïcité. Notre association Lire et Faire Lire s'inscrit naturellement dans cette opération. Dès l'origine, les bénévoles ont proposé aux enfants des lectures qui illustrent l'ouverture à l'autre, la solidarité, l'égalité, autant de valeurs qui garantissent le bien vivre ensemble. La littérature jeunesse offre mille et une propositions incitant au dépassement des préjugés, à la reconnaissance réciproque des cultures, au dialogue et à la fraternité. Nous vous proposons une émission spécialement consacrée à la présentation d'œuvres en lien avec cette thématique tellement essentielle.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un album petit format, mais qui, malgré ce petit format, ne s'adresse pas vraiment aux tout petits. En fait, je pense que c'est la thématique qui apparaît qui en fait un album destiné à une lecture plus intime. Il s'adresse vraiment à chacun en particulier. C'est un conte-poème de tradition africaine pour bousculer des idées reçues. Le texte est de Léopold Sédar Senghor, illustré par Jérôme Ruillier. Une invitation pleine d'humour à la tolérance. Et s'il s'appelle « Homme de couleur », édité par Bill Bocquet, surtout, surtout, par pitié, ne l'utilisez pas pour travailler les couleurs. Je l'ai vu sur Internet. Je vous lis ce poème. « Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Et quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Et quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Et quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ?
Il était une fois des femmes fabuleuses. C'est le titre du très beau livre écrit par les époux von Grut et illustré par Jeanne Bodil aux éditions Larousse Jeunesse. Une belle couverture cartonnée qui offre les portraits des 10 femmes dont il est question. 10 histoires, vraies évidemment, de femmes fabuleuses. 10 grands noms de la science, du combat social, de l'art. 10 grandes dames par leurs découvertes et leurs combats. 10 femmes qui se sont battues et qui ont fait évoluer la société dans laquelle elles vivaient ou dans laquelle elles vivent encore, en faisant bouger les consciences. Chacune a droit dans le livre à 2 doubles pages, dont une très grande illustration. Elles sont racontées pour les plus jeunes avec des mots simples, des explications justes, des contextes bien éclairés. On croise dans ce beau livre Alexandra David-Néel, qui, à l'âge de 101 ans, a fait renouveler son passeport, Frida Kahlo, Joséphine Baker, cette circonstance, ou encore J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. Le choix était difficile, entre Wangari Maathai, la mère des arbres, Rosa Parks, ou Alexandra David-Néel, mais mon choix a finalement porté sur Malala Yousafzai, petite pakistanaise qui s'est battue pour l'accès à l'éducation pour tous. Malala est née le 12 juillet 1997 au Pakistan, dans une région proche de la frontière avec l'Afghanistan. Elle a donc aujourd'hui 24 ans et elle a eu, à l'âge de 17 ans, le prix Nobel de la paix. Depuis des années déjà, des fanatiques qui s'appellent eux-mêmes les talibans veulent imposer leur vue aux populations locales. Malala est une enfant très pieuse, mais elle rejette ces bandits qui utilisent la religion pour faire de la politique. Elle aime l'école, même si l'institution n'a pas de gros moyens. Son pays est encore loin de connaître la prospérité et n'a pas beaucoup d'argent à consacrer à l'éducation. Le Pakistan est pourtant un grand pays, qui naguère faisait partie de l'Empire des Indes et qui a une très longue et très riche histoire. Malala en est fière, mais elle souffre beaucoup des conflits qui le déchirent. En arpentant les petites rues tortueuses et familières de son quartier, elle y rencontre d'autres enfants qui, comme elle, se rendent à l'école. Ils aiment y aller ensemble. Ils y apprennent des choses passionnantes sur la vie et la terre en général. Cela leur fait oublier la guerre et les violences qu'ils vivent tous les jours ou dont ils entendent parler. Quand les talibans prennent le pouvoir de la vallée où se situe la petite ville de Mingora, une célèbre radio britannique, la BBC, cherche à contacter des habitants qui pourraient venir parler de ce qui se passe au quotidien. Le père de Malala propose à sa fille, qui n'a que 11 ans, d'écrire des articles sur ce qu'elle voit et perçoit. Malala se lance donc dans le journalisme, en parlant de sa vie dans sa ville. Pour éviter d'avoir des ennuis, elle écrit sous un faux nom, celui de Gul Makai, car les talibans sont connus pour leur violence à l'égard de leurs adversaires. Courageusement, elle fait connaître au monde entier les conditions de vie réelles d'une écolière pakistanaise, dans une région passée sous le contrôle de fanatiques. Car depuis que ces derniers ont pris le contrôle de la ville, ils ont détruit beaucoup d'écoles et en ont interdit l'accès aux filles. C'est donc la peur au ventre que Malala se rend tout de même en classe chaque jour, car ses parents comme elle sont convaincus que seule l'éducation peut faire reculer l'ignorance et le fanatisme. À ce moment-là, seul un élève sur 10 fréquente encore l'école. Mais rester à la maison n'aurait pas de sens, car elle sait que la seule façon d'avancer dans la vie, c'est d'étudier, et ses chers livres lui manquent. Quand la guerre se rapproche encore, Malala et ses parents sont obligés de fuir. Ils se réfugient en lieu sûr, à la campagne. Après une longue bataille pour récupérer Mingora, elle et sa famille finissent par retrouver leur maison. Par chance, elle est intacte. Les écoles rouvrent, mais le danger taliban demeure. Que faire ? S'interroge-t-elle. Un jour ordinaire, alors que Malala rentre chez elle en bus, après avoir passé des examens, un homme masqué arrête le véhicule. Il est armé. Il monte à bord et hurle « Qui est Malala ? Dépêchez-vous de répondre, sinon je tue tout le monde !» On la reconnaît. Sans plus attendre, l'homme la met en joue et tire. Le bruit est assourdissant, car il utilise une arme de guerre. Touchée à la tête, la balle perfore le crâne de la jeune fille et termine sa course dans son épaule. Elle s'effondre. Gravement blessée, elle n'est pourtant pas morte. L'assassin s'enfuit sans savoir qu'il a raté son horrible mission. Malala est immédiatement emportée à l'hôpital par hélicoptère pour y être opérée. Elle survit, mais son état reste fragile. On décide alors de l'envoyer en Angleterre pour qu'elle soit mieux soignée. Lentement remise de ses blessures, Malala rentre au Pakistan plus déterminée que jamais. Lors d'une intervention devant des célébrités, elle affirme « Les terroristes pensent qu'après cette attaque, je vais changer mes buts et mes ambitions, mais rien n'a changé dans ma vie, à part cette nouvelle devise. La faiblesse, la peur et le désespoir sont morts. La force, la puissance et le courage sont nés. » Nombre de célébrités reconnaissent l'importance de son combat, un combat pacifique. Des chefs d'État, dont le président des États-Unis, Barack Obama, des chanteuses et des actrices comme Madonna ou Angelina Jolie, parlent d'elle et la citent en exemple. Elle profite de cette célébrité pour faire passer son message, un message de paix et d'ouverture. Elle est invitée à venir parler de sa cause aux Nations Unies, à New York, devant des milliers de personnes. Même s'ils continuent de la menacer, les talibans ne lui font pas peur. Ce qui s'est passé ne doit pas l'empêcher d'avancer. Elle, qui voulait être médecin, commence à confirmer l'avis de son père. Elle devrait plutôt devenir femme politique pour défendre le droit à l'éducation de tous. En 2014, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, elle est choisie pour recevoir le prestigieux prix Nobel de la paix, avec un autre lauréat indien. Elle est la plus jeune à recevoir ce prix, qui récompense son message d'espoir, son courage et sa force. Transportée, elle va plus que jamais continuer à défendre cette idée toute simple sur l'éducation, garante d'avenir pour ceux qui en profitent, riches ou pauvres, filles ou garçons. Toujours haïe par les extrémistes pakistanais qui refusent la présence des filles à l'école, elle est soutenue mondialement et reste déterminée à répandre son message coûte que coûte. Ce livre peut être lu à partir de 8 ans, je pense, avec un accompagnement, mais il peut intéresser des enfants plus grands et aussi des adolescents. En partage de Yves Pinguilly dans « Mon pays en partage », publié chez Rue du Monde.
En partage. Au joli temps où les frontières n'étaient que des fleuves ou des montagnes.
Au joli temps où les pays s'achevaient simplement par une caresse d'océan.
Les voisins, proches ou lointains, offraient l'eau de bienvenue au voyageur sans lui demander ses papiers.
Aujourd'hui, ici et là, on a construit des murs pour faire de l'ombre aux uns et aux autres qui vivent d'un côté ou de l'autre, pour les empêcher de se métisser.
Celui qui a construit cela ne sait pas que les uns et les autres ont le ciel en partage depuis toujours et pour toujours.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.
Ahmed sans abri, aux éditions Mango Jeunesse, de Barou pour le texte et les images. Sur la première de couverture, l'auteur a placé un petit garçon au bonnet rouge, sac de classe à l'épaule, qui lève un regard fasciné sur un personnage gigantesque, enveloppé de rouge et portant une couronne, la couronne que lui imagine l'enfant, car il est persuadé qu'il a affaire à un roi venu d'un pays de rêve où les enfants courent pieds nus dans le sable et le vent. Cet Orient imaginaire palpite dans le rouge du prénom Ahmed, calligraphié de manière à évoquer l'écriture arabe. Cet homme immense, que le petit garçon croise tous les jours sur le chemin de l'école, se tient dans un recoin sombre de la rue, d'où il semble observer le monde qu'il domine de sa haute taille. L'enfant lui prête une vie extraordinaire. Son père lui dit que c'est un SDF et à la télévision, il entend dire « Les SDF campent dans des tentes de fortune sur les bords du canal Saint-Martin. » Alors, il demande à son père « Papa, tu crois que lui aussi, il dort sous une tente au bord de l'eau, comme les Indiens ?» Personne ne va répondre vraiment aux questions de l'enfant dont la version naïve, dénué de préjugés, dénonce avec une particulière efficacité le problème de l'exclusion, de la précarité. Il a aussi le pouvoir de se rendre transparent. La plupart des gens passent sans le voir. La gardienne du 21, elle, s'arrête parfois pour discuter en rentrant du marché. L'auteur a peint sur une double page des passants pressés, sans couleur, qui évitent de le regarder. Seule, une femme en rouge tend des aliments à la silhouette sombre dont on ne voit que la barbe dessinée à la mine de plomb. Malgré le tragique de la situation, les illustrations sont empreintes de poésie. Les personnages évoluent dans un élément vaporeux comme masqué, peut-être pour signifier leur anonymat et leur indifférence. Avec des mots simples et beaucoup de pudeur, l'auteur a choisi d'aborder le thème de la pauvreté, de la discrimination à hauteur d'enfant. La narration à la première personne peut permettre aux jeunes lecteurs de s'identifier au petit garçon qui fait l'apprentissage des misères du monde, non seulement sans mépris, mais avec respect, voire empathie pour les êtres différents. Par tous les temps, il monte la garde. J'aime bien savoir qu'il est là, comme un ami fidèle. D'emblée, l'enfant lui accorde considération et sympathie. À l'inverse de la posture de défiance, voire de rejet des adultes. Dans l'univers grisâtre de la ville en hiver, l'enfant rêve aux paysages ensoleillés des pays du Sud. Mais un jour, son roi, son géant, son ours, son bon ogre disparaît. Inspirée d'un fait réel, cette histoire a été écrite par Barou en mémoire d'Ahmed, mort de froid dans une rue de Paris en février 2006. Mais laissons notre petit narrateur imaginer une réalité plus lumineuse. Je ne l'ai jamais revu, alors je l'imagine, très loin d'ici, assis à l'abri, son regard bienveillant posé sur le monde. Il sourit. L'album peut être lu à partir de 8 ans.
Je vous propose aujourd'hui un album de Stéphane Servant, illustré par Laetitia Lesseau, paru chez Didier Jeunesse, et qui a fait débat à sa sortie. Mais entrons tout de suite dans la lecture et vous verrez rapidement où est le problème. Si problème, il y a bien sûr. Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. Dans la maisonnette de la famille Ours, tout le monde prépare son déguisement. Papa se trouve terrible en grand méchant loup. Maman Ours finit de recoudre son costume de belle au bois dormant. Et petit ours, et toi, petit ours? Moi, je me déguise en boucle d'ours. Qui que quoi? Bredouille papa ours. Boucle d'ours avec une jupe rose et des couettes blondes? Non, non, tu ne préfères pas te déguiser en autre chose? En chevalier courageux avec une armure et une grosse épée? Non, je veux me déguiser en boucle d'ours, dit le petit ours. Et c'est là que tout va basculer. Qui l'emportera de petit ours et de son papa? Ne perdez pas de vue dans votre lecture le regard désespéré de celui-ci tout au long des illustrations de Laetitia Lesseau. Mais revenez aussi à la deuxième de couverture pour la citation de Stéphane Servant. Pour les ours qui préfèrent les jupes et les oursonnes qui aiment les salopettes. Et puis, quelque part un peu plus loin, mais pas dans ce lion, il ajoute « Et tant pis pour les papas ours qui ne comprennent rien. Allez, régalez-vous de cette histoire et puis interprétez-la comme vous voulez. » Simple préjugé, stéréotype de tenue, ou plus loin, encore un peu plus loin, à vous de décider.
De Maram Al-Masri, je veux préparer un monde, extrait des Chants du métissage aux éditions Bruno Doucet.
Je veux préparer un monde où il n'y aura plus d'armes ni de guerre.
Un monde où une mère aimera le fils d'une autre mère comme son fils.
Un monde qui ne fera pas de différence entre les hommes.
Un monde nouveau où ne compteront plus la gloire ni les défaites.
Je veux préparer un monde qui ne croira plus à l'arche de Noé.
Je veux préparer un monde où aucun être humain ne sera sans maison, où nul ne mourra de faim ni de froid.
Je veux préparer un monde où moi deviendra nous et nous sera moi.
Je veux préparer un monde naïf et sincère, comme ce poème.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.